Au cœur des Hautes-Vosges, à Cornimont, le silence de l'ancienne usine textile s'est peuplé d'un curieux peuple sylvestre. Des visages noueux, des silhouettes de sorcières, des bestiaires fantastiques. C'est le musée des Mille et Une Racines, un isolat d'art brut qui célèbre cet été les 10 ans de sa réouverture. Pendant plus d'un demi-siècle, un homme, Michel Maurice, a arpenté les forêts vosgiennes à l'affût de ce que la nature laissait derrière elle. Des souches tourmentées, des racines oubliées. Par le phénomène de la pareidolie, cette propension humaine à projeter des formes familières dans l'informe, cet artiste, autodidacte, a révélé les âmes cachées du bois. Loin des circuits d'art contemporains standardisés, ces mille et une racines continuent de murmurer aux visiteurs une vérité toute simple, le merveilleux n'est jamais très loin pour qui sait regarder le sol des forêts.
Ça me fait penser à la simplicité d'un enfant, la spontanéité et l'admiration devant la nature.
La sincérité et l'authenticité, et ça me touche.
C'est une œuvre totale.
C'est une âme d'enfance aussi, mais c'est de la poésie. Ouais.
C'est grandiose, c'est inexplicable. Hein, Alors ce musée existait auparavant sous une autre forme, derrière la maison de son créateur, et malheureusement il nous a quittés en 2014. Il se trouve que le musée, tel quel, n'était plus habilité à accueillir du public. Et donc, à sa mort, la question était de savoir comment sauver le musée et la collection. Et donc, la solution qui a été trouvée, en accord avec la commune, c'est d'investir un autre lieu. Ici, nous sommes dans une ancienne usine textile. Et c'était une friche industrielle et donc nous avons aménagé cet espace pour accueillir le musée. Et donc il nous a fallu à peu près 18 mois entre le décès de Michel et la réouverture de cette collection ici dans cette ancienne usine de Lons-sous-Champs. Il a commencé en 1957, il a terminé l'année de sa mort donc en 2014. Mille et une racines, c'est lui qui a trouvé le nom. Au départ, il l'appelait Exposition des racines, il y a eu le temple des racines, ça faisait un peu religieux. Et puis à un moment, il avait passé le cap des 1000 créations et il a dit « ça sera les mille et une racines », référence également au conte des mille et une nuits qui sont aussi un enchantement. Donc finalement, la boucle est bouclée.
Ici, dans le musée, on va pouvoir voir les sauterelles, des éléments de la guerre aussi pris dans le bois. On a aussi pas mal d'animaux, donc pas mal de choses très différentes.
C'est la forêt vosgienne, il y a les poissons, il y a l'Océanie, l'Afrique, tout est représenté.
Ce sont des essences locales, donc des résineux et des feuillus. Alors évidemment, sapin, l'épicéa, et puis les feuillus. Alors là, on a tout, hein, le chêne, le platane, le frêne, l'hêtre. Il n'y a que 3 racines qui ne sont pas du cru, qui ne sont pas locales. Et donc en fait, Michel allait en forêt dans un rayon à peu près de 30 km à partir de Cornimont, donc versant lorrain et versant alsacien.
Tout n'est pas ici, hein. Ouais. Il en reste encore dans son ancien musée. Ça permet de changer de décor de temps en temps, voilà.
Surtout, il a mis son empreinte. Donc, en fait, c'est une co-construction. Comme j'ai dit toujours, la nature l'inspire et lui, à la marge, il sculptait.
Alors, déjà, on approche là de la grande... Enfin, une roue. En fait, on a une roue qui a été prise dans un frêne. Ça a été retrouvé donc à Blairville. Il me semble que c'est quelqu'un qui a signalé à l'artiste la présence de cette roue. Et en fait, on a un très joli poème aussi dessus que vous allez pouvoir lire au musée. C'est une roue qui a été posée très longtemps, en fait, contre un arbre, donc contre le frêne. Et à force, en fait, le frêne a poussé. Et la roue est prise dedans. C'est vraiment très intéressant à voir. Ça nous permet de nous rendre compte, en fait, d'à quel point la nature est capable de reprendre ses droits.
C'est pas un sculpteur sur bois académique, même s'il utilise les mêmes outils. D'ailleurs, les sculpteurs du Festival international de la Bresse viennent tous les 2 ans visiter le musée et disent « oui, c'est un sculpteur ». Sauf que sa démarche est différente, puisque c'est la nature qui lui fait une proposition et lui, il la parachève.
Alors c'est vrai qu'en fait, le cerveau humain, il a toujours envie d'interpréter les choses, un petit peu comme quand on regarde les nuages. Et lui, il regardait les morceaux de bois de la même façon. En fait, en forêt, il voyait directement, ça lui faisait penser à des personnages, donc... Ces fameux personnages, ces fameux animaux, ces fameuses sauterelles, donc les lutins qu'on a beaucoup dans le musée, il en voyait vraiment beaucoup. Il avait beaucoup d'imagination, cet artiste.
Ça résume bien l'appellation qui lui a été donnée, Michel, l'enchanteur. C'est vrai que quand on rentre ici dans ce site, on a mis énormément en valeur tout son travail de toute une vie. Quand on est dans ce milieu, on est loin des tracas de la vie quotidienne, on est loin de la politique, on est loin des problèmes de la mondialisation, on est dans le monde des contes de fées, des légendes et tout ce qui va avec, quoi.
J'ai baigné dedans quand j'étais petite, comme dirait Obélix, je suis tombée dans la marmite toute petite. Je connaissais parfaitement son œuvre parce que je suis sa fille. On a eu la chance d'aller en forêt avec lui, donc on l'a vu créer, on l'a vu chercher des racines.
Ah ben c'était sportif, hein, parce que nous on était plutôt les porteurs. On partait des fois tôt le matin pour pas avoir les bêtes, avec la chaleur et tout. La voiture, elle débordait de partout, hein, quand il allait avec sa mobylette et sa remorque.
On a une petite fontaine dans le musée. En fait, c'est pour représenter une sorte de petit ruisseau, petite fontaine que l'artiste avait avant, dans son ancien musée. Avant 2016, le musée était derrière chez l'artiste. Et en fait, quand le musée a rouvert ici à Lens-aux-Champs en 2016, ça a été un souhait de refaire ce petit point d'eau. Et donc, c'est présent dans la deuxième salle avec beaucoup d'œuvres autour. Et parfois, ça rappelle des souvenirs.
Il a commencé dans une petite maison. Il a fait un petit bâtiment de 69 mètres carrés qui est devenu trop petit. Il a pris le garage, il a pris tout ce qu'il pouvait. Hein. Et après, il a construit derrière chez lui. Il a acheté un terrain pour faire un bâtiment de 480 mètres carrés, aussi gros qu'ici. Hein.
Les sculptures sur bois peuvent être très fragiles. Il faut tenir compte de l'hydrométrie. Pour éviter les grandes amplitudes thermiques, nous faisons en sorte de ne pas chauffer et de ne pas avoir de climatiseur. C'est toujours à température ambiante. Alors, heureusement, nous sommes dans un vieil immeuble, puisque c'est une usine qui a été construite dans les années 1860, et les anciens savaient construire à cette époque. Donc, en hiver, on garde les doudounes, mais c'est pas grave, on n'a pas de vestiaire, on n'a pas froid. Et puis, en été, vous voyez, hein, il fait chaud dehors, mais à l'intérieur, il fait très bon, parce que nous sommes protégés par l'épaisseur des murs. Et finalement, c'est la très bonne combinaison pour préserver ses racines.
On a une jolie fresque d'ailleurs à admirer au musée dans la première salle, une jolie fresque d'Olivier Claudon, donc qui l'a fait en fait en l'honneur de Michel qu'il connaissait très bien, et il a aussi fait une deuxième fresque dans la deuxième salle de sa femme Huguette Toussaint.
Alors là, je suis en train de faire un cercle qui est en forêt, qui est intégré dans notamment une forêt avec du bois mort. Et pour en faire un petit clin d'œil donc à Michel Maurice, qui était un adepte et un amoureux de l'imagerie d'Épinal, et notamment des devinettes de l'imagerie d'Épinal, dans ce dessin, j'ai caché donc une figurine, un personnage, que le spectateur est amené à essayer de retrouver.
Je ne connaissais pas du tout, et j'ai adoré vraiment ce côté justement où l'artiste suit le bois pour en faire une forme, mais la forme n'est jamais dénaturée, je trouve ça magnifique.
De voir ce qu'il peut faire avec ce qu'il trouve, je trouve ça génial.
On peut penser qu'à terme, ce sera aussi le témoignage des essences de nos forêts du XXe siècle et du XXIe siècle, parce qu'on ne sait pas comment la forêt va évoluer. Et donc je pense que non seulement il y a un intérêt artistique, mais il y a aussi un intérêt scientifique. Il connaissait ses coins, il avait remarqué qu'il fallait à peu près 5 ans pour que la nature se régénère. Il est né en 1937 et il sait qu'en 1947, il y avait ce qu'on appelait le Bostriche, parce qu'on dit maintenant scolite, mais à l'époque, on disait Bostriche. Il se documentait, il avait non seulement des livres d'art à la maison, mais des livres sur la nature et particulièrement le massif vosgien. Et donc, il connaissait tout cela. Et d'ailleurs, dans le musée, nous avons des témoignages de scolite. Nous avons des morceaux de bois qui ont été impactés par les larves de scolite. Donc, justement, ça permet aussi aux visiteurs très curieux de nous poser des questions et de parler également des effets du réchauffement climatique et le fait que, certes, il y a toujours eu des scolites, mais qu'effectivement, il y a une intensification. Et donc, on parle aussi de l'intérêt de protéger la nature, la diversité, et le fait également d'avoir une belle forêt vosgienne composée de résineux, de feuillus, et pas tout miser sur la monoculture. À travers l'art, nous faisons de la sensibilisation à l'écologie et à l'environnement.
Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué, mais le tronc d'arbre qui est creusé avec les embranchements. Ça, pour les enfants, comprendre ça, je trouve ça génial.
Il ne pouvait pas se séparer de ses plus belles œuvres. Il a accepté à titre exceptionnel de vendre deux d'entre elles. Une pièce qui a été achetée par la ville de Cornimont pour l'offrir au président de la République de l'époque, qui était Georges Pompidou. Et une autre qui a été achetée pour être offerte à la ville de Steinen, avec laquelle nous sommes jumelés. Mais mis à part ces deux cas exceptionnels, il n'était pas question pour lui de vendre ses belles pièces. Celle qu'affectionnait particulièrement mon père, c'est le poisson. Il est dans cette salle, dans la seconde salle. Alors, elle a vraiment une forme de poisson, mais on ne peut pas dire quelle est l'espèce de poisson. On imagine un poisson plutôt de fond marin. Et il a surtout travaillé l'œil. Il l'a à peine touché. Donc, c'est là que j'aime particulièrement, parce que bon, c'était aussi sa préférée.
Moi, je dirais que le musée, bah, faut pas hésiter à venir, parce que c'est vraiment un plein d'imagination. On se plonge dans notre imaginaire, on plonge dans l'imaginaire de Michel. Et c'est vrai que quand on ressort, et bah, on voit vraiment les choses différemment. Ça l'a fait sur moi. En fait, en forêt, parfois, on remarque, c'est un peu spontané. On se dit, bah, tiens, ça me fait penser à telle ou telle chose, ce morceau de bois, ou les nuages aussi. Mais quand on vient ici, et bah, ça nous pousse à regarder encore plus. Quand on va dans la nature, bah quand on sort tout simplement, on est beaucoup plus observateur.
Quand il me remontrait une nouvelle racine, je lui disais, bah toi regarde, si tu la retournes, moi je vois autre chose. C'est souvent le principe d'ailleurs, c'est un jeu, hein, ce genre de choses. Il y a des fois c'est vraiment flagrant, on reconnaît vraiment tout de suite la forme que lui il avait décelée, mais moi des fois c'est vrai que je m'amusais à essayer de trouver autre chose aussi. Ouais.
J'ai absolument dit à M. Bachelier la permission de faire ce bâtiment. Il m'a dit qu'il ne me fait pas une cabane de lapin, hein, surtout parce que moi je veux pas que ce soit dégueulasse au bord de la route. Je dis comme il me l'a dit, hein, puis il était franc à parler, hein, M. Bachelier. Alors voilà, en 62, j'ai monté ce petit bâtiment, voilà, qui a fait son chemin. Et puis après, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont des souvenirs parce qu'ils signent des livres d'or et puis ils le retrouvent maintenant, 20, 40 ans après, je ne vous dis pas les signatures, les écritures. Hein, c'est marrant, je veux dire, on les lit tous. Hein.